Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour. Voilà, nous allons tout à nouveau ouvrir notre Bible et j'aimerais simplement partager un texte, une pensée, un enseignement de Jésus, disons plus précisément, que vous connaissez parfaitement. Alors je me demande pourquoi nous revenons sur le sujet. Il y en a peut-être besoin. Alors, donc, on va prendre simplement un premier texte. Ésaïe, chapitre 5, alors je dis bien Ésaïe, chapitre 5, et j'aimerais simplement donner quelques paroles d'introduction. On a tous constaté... Et ça fait partie d'un livre, un groupe de livres, une série de livres dans notre Bible. C'est les écrivains sacrés, les écrivains bibliques. Hein, il y a naturellement les livres des psaumes, proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Job, etc. Et si nous remarquons bien dans le style, hein, c'est surtout ça ce qui est important, tous ces écrivains bibliques se sont ingéniés dans le style parabolique. Voilà. Il y a différents styles dans notre Bible historique. Il y a naturellement description des origines, de la doctrine, et puis naturellement le caractère prophétique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais ce matin, ce que j'aimerais parler, le sujet, la pensée, c'est véritablement le style parabolique que nous trouvons dans un exemple dans Ésaïe chapitre 5. Et nous allons ouvrir notre propos à travers ces quelques paroles. Et ensuite, nous passerons dans le Nouveau Testament. Et là, nous aurons les enseignements de Jésus sous une forme de parabole. Il y a différentes façons de comprendre les choses. Hein. On va le voir ensemble. Alors, Ésaïe, chapitre 5, verset 1er. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. » Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, il en remua le sol, ôta les pierres et il mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve et il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Alors, nous comprenons naturellement, même si nous ne sommes pas agriculteurs ou viticulteurs, nous savons de quoi il s'agit, naturellement. Alors, tout à repositionner le vigneron Dieu, la vigne Israël, et peut-être pouvons-nous dire, si nous voulons donner une idée plus étendue en joignant l'Ancien et le Nouveau Testament, tout simplement la vigne, cette entité qui est le judéo-christianisme. Enfin, je ne veux pas trop m'étendre sur la question, mais On peut le comprendre de cette manière. Il est question d'une vigne sauvage et hors culture, comme on en trouve aujourd'hui. Vous savez, il y a des vignes dans certaines régions qui sont vieillissantes, qui ont vieilli et qui sont là à pousser un peu de droite et de gauche le long des chemins, enfin bon, dans des endroits qui sont déshérités. On pourrait peut-être présenter les choses de cette manière. Vigne sauvage et hors de culture. Et voilà ce que ça donne. Ça donne pas grand-chose. Assez bien de la vigne, pas de problème. Mais tout dénote qu'elle n'a pas été entretenue et traitée. Alors il y a des feuilles qui sont rouillées, enfin bon, toutes sortes de maladies. Des raisins qui sont gros comme des grains de blé, ou enfin quelque chose qui ressemble. Et il y a également en parallèle une vigne soignée. C'est ce que nous avons lu ensemble, nous y reviendrons tout à l'heure. Il est question que le vigneron en a remué la terre, c'est-à-dire s'il y a une préparation. Ça ne se fait pas comme ça. Il a ôté les pierres pour que véritablement les choses de terrain soient propres. Et il y a planté, pas n'importe quoi, un plant délicieux. Un plant qui va donner un vin, un grand cru. Et nous pouvons dire qu'il y a là, à travers ses soins du maître, ses soins du vigneron, tout ce qu'il peut apporter, puisque nous le voyons, il a bâti une tour pour qu'elle puisse être surveillée, qu'il y ait comme dans l'Antiquité. Il y creusa une cuve pour pouvoir avoir, dans les temps de dessèchement, de l'eau, etc., etc. Il y a d'un côté une vigne irrégénérée, ou qui s'est arrêtée finalement, dans sa croissance et dans ce qu'elle est. Et puis, il y a une vigne régénérée par l'entretien, par les soins, par l'attention, et avec véritablement, un cépage qui est d'excellence, en quelque sorte. Alors, le style parabolique, c'est une image mentale. On pourrait le présenter d'une autre manière. J'ai une vigne à la maison. Ça va faire sourire certains. J'ai pas un vignoble, attention. Mais elle a poussé. Dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il m'a dit, alors, elle pousse ta vigne. Oh, ben je dis... Elle court le long de la balustrade, etc., etc. Je ne peux pas me mettre encore dessus, je suis trop grand. Dessous, pardon. Mais bon, toujours est-il que ça ne craint pas, parce que je pense qu'une seule, ça ne va pas le faire. Donc c'est une image mentale. C'est une allégorie. Peut-être faire la différence entre tout simplement la parabole et l'allégorie. Et également, c'est une présentation, en quelque sorte, figurative. C'est narratif, on a raconté une histoire, et vous avez tous en mémoire ce que c'est maintenant. Vous avez une image de ce qu'est la vigne, et ça c'est important. Alors, on va tourner quelques pages, et je voudrais souligner ce matin, parce que c'est important, ça paraît un petit texte anodin, mais il y a beaucoup plus de choses à retirer de ce que l'on va lire maintenant. Il y a d'un côté la régénération, la foi et la sanctification, si nous le mettons sur le plan spirituel, et il y a l'irrégénération, c'est-à-dire que c'est laissé à l'aventure, c'est laissé tout simplement comme ça. C'est la nature brute, et tout cela pour résultat la stérilité. On pourrait dire que c'est le monde chrétien, si on veut généraliser le monde chrétien, et puis le monde tel qu'il est, tel que nous étions auparavant. On poussait un peu de tous les côtés, les fruits, ils étaient certainement très douteux, tant dans la grossièreté, dans le langage, dans la manière de faire, la manière de nous comporter, toutes sortes de choses, vous devinez ce que ça peut être. Et pourtant, le vigneron est rentré dans notre vie. Et lui, il a commencé à, ce que l'on va dire, tout simplement, il a commencé à faire un travail particulier. Donc il s'agit d'un enseignement spirituel, qui peut avoir naturellement des rapprochements, et je pense une connotation avec la vie morale. Pas la vie religieuse, je la mets de côté, parce que la vie religieuse, c'est tout à fait différent de la vie spirituelle. Donc, d'un côté, l'homme est entretenu, il est soigné, image de la vigne, et d'un autre côté, il y a l'homme naturel qui pousse de façon anarchique et sauvage. Heureusement que le Seigneur est venu nous cueillir. Quelque part, la première vendange qu'il a fait, il l'a fait sur une vigne qui était, c'était pas la bonne vigne, hein, mais de ce bon, il a changé le mal en bien. Voilà, on peut le dire. Je veux parler simplement hein, ce matin, je ne veux pas faire de théologie. Mais toujours est-il que c'est intéressant de considérer ces choses. Il y a une saisissante parabole donc, qui illustre l'union du croyant avec Christ. Là, je me mets dans la configuration de quelqu'un qui a entendu l'Évangile. Et son enseignement qui est majeur, et l'enseignement majeur de Jésus, il faut s'en souvenir, à savoir l'essentiel et le but de la vie chrétienne, ce n'est pas la jouissance, même si quelquefois nous pouvons avoir des tressaillements pseudo, enfin, ou tout simplement spirituels, hein, ça c'est... Ce n'est pas le bien-être, bien que être dans la compagnie de Dieu, c'est ce qu'il nous donne tous les jours, hein, il nous bénit tous les jours, et ce n'est pas le bonheur à tout prix, parce qu'on sait très bien que la vie chrétienne, elle est quelquefois... En effet, faites aussi de pleurs, de chagrins, de deuils, de toutes sortes de choses. Mais écoutez bien le sens. Elle est faite de fertilité et de fécondité. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir une vigne. Ce n'est pas les fleurs de la vigne au printemps qui vont véritablement faire un beau bouquet. Hein. Mais quand on voit apparaître les feuilles, les fleurs, et ensuite... Il y a là une grappe qui commence à descendre, elle est toute verte, elle est toute petite, mais à un moment donné, comme à la saison, ou peut-être une saison précoce cette année, eh bien il va y avoir une belle grappe. Voilà, c'est la fécondité. Nous devons nous dire que si Dieu nous a appelés, c'est pour que nous soyons fertiles, que nous soyons féconds. Mais de quelle manière? Il est question d'une petite... Il est dit à un moment donné, porter du fruit. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Et si vous portez, pas quelques fruits, mais beaucoup de fruits. Il y a une double condition à remplir qui nous est formulée. On va le voir ligne après ligne. C'est demeurer en Christ et lui permettre à lui, à Jésus, de demeurer en nous. Parce que lui, pas de problème pour venir habiter nos vies et nos cœurs. Il frappe à la porte, si quelqu'un ouvre, je rentre. D'accord. Mais nous, le laisser faire, et le laisser faire, c'est ce qu'on peut appeler la sanctification. C'est pas la sainteté, c'est la sanctification. Un travail qui va faire qu'un homme, une femme, va être transformé dans sa relation à cause de Jésus, à travers la vie de Jésus. En lui. Alors ça, c'est une histoire qui va durer sur le temps, hein, faut pas se faire d'illusions. Hein. Il peut nous avoir appelés jeunes, il peut nous avoir appelés à 20 ans, il peut nous appeler peut-être dans notre blanche vieillesse, mais il y aura toujours un temps où il va y avoir cette œuvre eh bien, de sanctification. Et tout le reste est une affaire du vigneron. Moi, je crois, Dieu ne me demande pas autre chose. Il me demande d'être obéissant, il ne me demande pas autre chose. Il me demande d'être flexible et souple, il ne me demande pas autre chose. Mais par contre, le reste du travail, le gros du travail, c'est le vigneron que vous voyez avec son chapeau dans la vigne, été comme hiver, en train de préparer les choses pour une récolte unique. Hein? Et la récolte unique, c'est lorsque nous arriverons de l'autre côté. Les choses seront visibles et évidentes pour tous. Pas maintenant, hein? Alors on ne sait pas la peine de jouer la comédie, le chrétien, ou... ce que Jésus a décrété et il a véritablement dit à ses contemporains religieux, les pharisiens et puis tout le reste, hein, il leur a dit, vous êtes une bande d'hypocrites, vous allez au temple. Mais pourquoi vous allez au temple si c'est pour faire la démonstration de vos simagrées, de vos traditions, de vos rites et de vos lois, etc. etc. Voilà, donc Jésus n'a pas mâché les mots, hein. Il a dit les choses, et combien de fois, hypocrite ça veut dire comédien. Traduit du grec. Voilà. Alors, de lui permettre de demeurer en nous et tout le reste, eh bien, c'est l'affaire du vigneron. Il y a le choix du terrain. On l'a vu, hein, il a enlevé les pierres, il a préparé les choses. Le terrain rocailleux, oui, parce que c'est souvent dans un terrain ensoleillé, un traitement que l'on appelle l'émondage. Hein, l'émondage, c'est coupé, c'est sectionné, c'est retranché. Alors, certains commentateurs de ce texte ont dit, mais peut-être que Jésus était sous une traille lorsqu'il a donné cette parabole. Alors il a regardé, il a dit, mais c'est beau, hein? Non, je pense qu'il pouvait y avoir, mais ça peut donner une idée, finalement, hein, sous une traille. Mais bon. Nous allons développer maintenant quelques pensées relatives pour ce que nous vivons aujourd'hui, pour demain, de cette union de l'homme, du croyant, du chrétien avec Jésus. Jésus nous dit ceci, et c'est toujours dans l'évangile de Jean, mais en dehors de ce texte, « Je vais vous préparer une place ». Ce n'est pas n'importe quelle place. Alors, on comprend tout de suite, c'est celle de là-haut. Mais néanmoins, nous avons une place sur la terre. En tant que chrétien, quand il nous a appelés, il nous a donné probablement une mission, une fonction. Il nous a donné d'être ses ambassadeurs de son royaume. Il nous a donné véritablement quelque chose qui va nous caractériser, nous, personnellement. On n'est pas tous pareils. Hein. On n'a pas tous les yeux bleus et les cheveux blancs. Bon, mais pour dire que la répartition, et Dieu n'oublie personne. « Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et moi, ça me fait penser que c'est cette osmose entre Christ en nous et nous en lui, en quelque sorte. « Le Père vous donnera un autre consolateur. » On n'est pas tout seul dans cette affaire. Il n'y a pas que Jésus. Il n'y a pas que le Père créateur. Il y a également sa parole. Et sa parole, qui est Jésus, vivant, Jésus qui est une réalité vivante, eh bien va nous envoyer une personnalité, parce que c'est une personne le consolateur, hein, c'est pas un fluide et tout ce que vous voulez comme on l'entend dire. Non, le consolateur, afin qu'il demeure en vous, le Saint-Esprit en vous. Moi je parle du baptême dans le Saint-Esprit, il faut le dire. C'est pas quelque chose comme ça que ça vous rappelle quelque chose. Bon, paraît-il que c'est une bénédiction. On connaît une autre expérience, nous-mêmes. Alors, un autre consolateur, afin qu'il demeure en vous, et qu'il demeure avec vous, et quelque chose de formidable que beaucoup de chrétiens n'ont pas saisi, même dans toutes les autres communautés, peu importe, enfin, bon, c'est qu'il sera tout simplement en vous, pas seulement avec, mais en vous. Nous avons, mes amis, qui êtes passés par la nouvelle naissance, la repentance et puis tout le reste du cursus, nous avons le Seigneur en nous, il est en nous, il vit en nous. Et ça, nous pouvons véritablement, avec cette boussole qui s'appelle la conscience, savoir si c'est bien, si c'est mal. Hein. Voilà, enfin, le Saint-Esprit, il est saint, il est bien, pas de problème. Et il va nous conduire, il va nous inspirer, il va nous révéler des choses à travers les dons spirituels. Et là, nous sommes en train de parler des fruits spirituels. Une autre dimension, mais ça va ensemble. Il nous a dit, le Saint-Esprit, je viendrai à vous en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alors, le chapitre 15, on va le débuter. On va avoir deux leçons, hein. Dans 15 jours, je reviens vous voir, et on parlera de la suite de ce texte, il est important. Le deuxième, cette entrée dans le chapitre 15, nous parle de la fécondité, de la fertilité. Si nous regardons bien le texte, 5 fois le mot « fruit » est cité. Ouais, c'est une corbeille, hein. Et il y a cette idée de fertilité, d'abondance et de vitalité. Un chrétien doit se caractériser par une certaine vivacité, par une certaine vitalité. Et nous devons le manifester lorsque nous sommes le dimanche matin à chanter des cantiques. Je ne vous dis pas de chanter sur vos chaises, mais au moins de montrer que quand on chante des cantiques entraînants et tout ça, et si... Non, ça ne va pas, hein. Ça ne peut pas aller. Alors, il y a naturellement cette note qui montre que ça doit sortir de nous-mêmes dans cette force et cette joie. Parce que le texte se termine sur la joie, de toute façon. Plusieurs fois dans ses discours, Jésus suscite la notion de développement, qui est une nécessité pour un chrétien né de nouveau, de produire des fruits. Un arbre qui ne produit pas de fruits, c'est un arbre qui est mort. Il a des feuilles, il a un tronc, il a des racines, bon, il a tout à peu près ce qu'il faut. Mais où est l'avenir s'il n'y a pas de reproduction? Où est la suite? Arbre fruité à pépins, arbre fruitier à noyaux, il n'y aura rien du tout. Qu'est-ce que l'on va faire? Parce que c'est la multiplication, ça. Et une église doit se multiplier. Parce qu'elle porte des fruits. Elle ne se multipliera que si elle porte des fruits. Elle n'a pas de fruits. Elle est stérile, elle ne vaut rien. On l'arrache. Combien de fois nous entendons les arboriculteurs nous dire, ben, en raison du climat, en raison de ceci et cela, ben, moi je suis avec... j'arrache et je fais autre chose. Naturellement, hein. Nous avons des belles paraboles de la part de Jésus, le semeur. C'est beau, hein? Je vous y invite à retourner. Le grain de sénévé qui fait lever la pâte. L'histoire des vignerons, c'est vrai, à la fin du livre de Luc, hein, là où véritablement, eh bien, là, il y a quelque chose de pathétique, hein, qui est annoncé. Les 10 mines, bon, c'est pas des végétaux, naturellement, mais c'est, ils se multiplient. C'est toujours cette question-là, hein. Et le figuier, oui, qui est stérile, qui n'a rien du tout. Jésus passe le soir, il n'y a rien du tout. Il revient le matin parce qu'il avait fait la promesse à ses disciples, si ma mémoire est fidèle. Et là, il va être garni de fruits. Et tout le monde, et Jésus va pouvoir manger les figues, naturellement. Et il y en a d'autres. Au chapitre 4, le verset 4, Jésus dira ceci. Donc, demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Et si vous demeurez en moi, alors à ce moment-là, je demeurerai en vous. Et il va se produire quelque chose. Le verbe demeurer revient 12 fois. C'est un mot-clé dans notre texte. Un mot-clé. Voilà. 12 fois. Jésus bâtit son instruction de cette image de la vigne, naturellement, comme une pyramide dont la base est l'union, le maintien, l'attachement du disciple avec Jésus, avec son Seigneur. Et voilà le fondement sur lequel tout repose pour vivre, pour être rempli du Saint-Esprit, pour pouvoir reproduire ce que nous avons reçu, des fruits, accompagnés peut-être des dons spirituels, mais pour que d'autres, que mes semblables, puissent véritablement eh bien, voir, reconnaître que nous avons reçu quelque chose et nous avons quelque chose à leur donner, nous avons un témoignage à leur donner, notre propre témoignage, le témoignage de ce qui est Dieu, ce qui est Jésus, ce que Jésus a fait, pour qu'à leur tour, ils puissent croire et devenir enfants de Dieu chrétiens. Ça, on le sait, hein, naturellement. Il y a un summum, je ne dirais pas un sommet, mais il y a un summum dans cette histoire, c'est l'amour de Dieu. Eh oui, rien ne pousse sans amour. Hein. Rien ne pousse s'il n'y a pas véritablement eh bien, ce caractère, hein, qui est à l'inverse de la haine, à l'inverse du péché, à l'inverse du mal, c'est l'amour de Dieu. Comme, dira Jésus, verset 9, il dira, « Mais comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Il pourrait être dit d'une autre manière. Demeurez dans mon Père que vous croyez être votre Créateur. Demeurez eh bien, en moi parce que je suis votre Sauveur. Mais c'est une question qui est fondée sur l'amour. Et vous savez que l'amour rend possible l'impossible. Eh oui. Et ça, c'est ce que nous avons besoin. D'ailleurs, Jésus le dira d'une manière très claire et proclamé au monde entier, et cela depuis 2000 ans, aimez-vous les uns les autres. On est tout à fait dans la meilleure période aujourd'hui. On fait des feux d'artifice partout. Alors, on peut se poser des questions. Demeurez dans mon amour. Sur les faces multiples de cette pyramide, on découvre certains aspects, tels que par exemple 5 facettes que j'aimerais faire ressortir du texte. D'abord, c'est le travail du vigneron. On le reprendra dans 15 jours, ça. Le travail du vigneron et la stérilité de la vigne. Il est dit, « Je suis le cep et le père, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. » C'est une image cruelle. Coupé, retranché, enlevé, massacré. Pas tout à fait. C'est pas ça, hein. Mais enlevé, retranché, retiré. On dirait, si c'est plus qu'une tige où il n'y a plus rien du tout dessus. Et justement, c'est parce qu'il y a une forme de nettoyage, parce qu'il y a une forme de purification, on pourrait dire, que ça va produire encore davantage. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, il le coupe, le sécateur est à l'œuvre, et tout sarment qui porte du fruit, il va l'émonder pour qu'il porte, écoutez bien, la raison, la chute, c'est ça, pour qu'il porte encore beaucoup de fruits. Ah, parce qu'il y a un problème là. On parlait tout à l'heure de la vigne végétale sauvage, irrégénérée, qui pousse dans tous les sens et qui ne donne rien, ou alors d'une vigne entretenue, bien propre, comme les choses doivent se faire, et ça c'est important. Il y a des applications spirituelles naturellement et obligatoires. L'obligation des disciples, notamment la valeur de la parole de Christ, ce que vous entendez ce matin. Ce n'est pas la parole d'Alain. Hein. Moi, vous voyez, j'ai ouvert ma Bible et puis je m'en sers. Et l'observation, eh bien, nous assure l'exaucement des prières. Verset 7. Vous vous posez des questions quelquefois, vous êtes non exaucé ou exaucé avec retard. Mais bon, il y a des paramètres qu'il faut tenir compte parce que nous, ça ne dépend pas de nous. Hein. Mais il y a une chose qui dépend de notre... C'est nous, c'est obéir à sa parole, croire à sa parole, faire foi à sa parole. Ça, c'est important. Alors, le verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Vous ne trouvez pas que ça, c'est un verset qu'on devrait peut-être citer devant le trône de la gloire de Dieu tous les jours quand on prie pour dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as dit là ?» Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais qu'est-ce que nous perdons notre temps avec des vaines redites, à rabâcher, à dire, alors que Jésus nous dit ne multipliez pas de vaines paroles parce que ça ne sert à rien. Hein, au contraire, vous prenez Dieu pour un sourd, il n'entend pas. Alors il entend le Seigneur. Mais quelquefois, on a besoin peut-être de concentrer tous ces versets d'exhortation à la prière et à la prière de la foi pour dire, mais peut-être que demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est encore un autre aspect. Il y a quelque chose qui doit aussi être signifiant, c'est la glorification de Dieu et notre véritable reconnaissance des disciples. Verset 8, il nous dit simplement, si vous portez beaucoup de fruits, alors après, il appartient à chacun d'en porter ou pas en porter, ou de, tout simplement de faire la moitié du chemin. C'est ainsi que mon Père sera glorifié, c'est la glorification de Dieu. Je vais honorer le Seigneur si je porte des fruits, hein, et vous serez mes disciples. Le monde entier va vous voir en disant c'est un véritable disciple. Dans son entreprise, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, d'une manière ou d'une autre, au sein même de sa communauté spirituelle. Eh bien là, quand on dit du bien de quelqu'un parce que finalement c'est un homme de bien ou une femme de bien, alors à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Devant Dieu, même si nous restons silencieux, nous glorifions notre Seigneur, celui qui nous a sauvés. Et nous rendons le témoignage que c'est lui qui a fait l'œuvre, c'est pas moi. Ça nous ramène à la modestie. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et on vous reconnaîtra comme de véritables disciples. Les gens diront, oui, ça ce sont des gens qui sont conséquents. Ce n'est pas des religieux, des croyants, là, oui, mais ce sont des gens qui vivent avec Jésus, qui laissent et qui traduisent par leur manière d'être, leur façon de parler, qui traduisent la vie de Christ à travers eux. C'est ça ce qu'on a besoin d'être. Il y a encore un autre point, c'est l'obéissance selon l'exemple de Christ, qui est une régénération dans ce pouvoir extraordinaire qui vient, qui découle de la foi, c'est la joie. Il nous est simplement rappelé cela. Si vous gardez mes commandements, demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie, elle est pure, elle est parfaite, ma joie soit aussi la vôtre. Chrétien joyeux, chrétien heureux, allez, faites-moi un sourire. Eh ben c'est bien, moi je suis content parce que, voilà, c'est bon. Hein? Mais chaque fois que vous me verrez, dans la rue même, je lui dis, mais je les connais ceux-là. Ils sont remplis de joie. Enfin, attention à la joie. Parce que il faut faire attention quand on est en public de ne pas sauter sur tout le monde. Hein? Alors, il y a un autre élément de la pyramide. C'est l'amour fraternel. Qu'est-ce qu'il en découpe? Et là, nous touchons à l'essence même du fruit. Parce que ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le donner. Ce fruit, c'est pour le partager avec mes frères et sœurs. C'est ici mon commandement, nous dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Regardez comment je vous ai aimés. Regardez comment je vous ai sauvés. Regardez comment je vous ai pardonnés. Regardez comment je vous ai accueillis. Alors à ce moment-là, en prenant mon exemple, eh bien, faites la même chose auprès de tous ceux qui sont vos frères et vos sœurs. Et je dirais même encore plus de raisons, parce que c'est quand même le sermon sur la montagne, hein, même ceux qui sont vos ennemis. Ouh, c'est dur. Qui a dit que c'était compliqué? Eh bien, vous serez punis. La punition. Alors, oui, non, mais c'est vrai. C'est dur, mais le Seigneur est capable de changer notre cœur et nos sentiments. Voilà. C'est bien. Alors, encore un autre aspect, puisque nous l'avons lu au départ, le cep et les sarments. L'un et l'autre unis dans une vie indissociable. Le cep, le pied, on dira le pied de vigne. Et sarment, c'est les branches, hein, si pour être beaucoup plus simple. Donc ça peut être dit de cette manière. Le cep fait circuler la sève dans le sarment, lui communique sa vigueur, entendez bien, il lui communique sa vie. C'est au cep que le sarment doit sa place dans la vigne. Il porte le sarment et pas le contraire. Eh oui, le sarment, c'est le pied de vigne. Il est pratiquement enfoui hein, dans la terre. On n'en voit qu'un petit bout. Et de là, ça s'en va dans tous les sens. Ça peut aller très loin, hein, parce que quand on voit des treilles, quelquefois, ça fait des mètres et des mètres hein, qui partent dans tous les sens. Alors, il porte le sarment, le cep porte le sarment, il le nourrit. Il entretient sa croissance pour lui faire produire, encore une fois de plus, je me répète, des fruits. Il faut que ça aille jusqu'au bout, hein. Il ne faut pas que ça avorte. Beaucoup de choses avortent dans la vie, hein. Dans la vie humaine, dans la vie de ce que l'on peut entreprendre d'une manière ou d'une autre. Et ça donne le raisin. Et le raisin, quand il est foulé au pied, quand il... Ah oui, c'est une méthode antique, ça. Mais quand il est pressé, eh bien, il donne le vin. Tout simplement, il donne le vin. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Le cep est parfois à peine visible, c'est ce que je viens d'affirmer. Les sarments révèlent la présence et le prix. Je sais que s'il y a des sarments, c'est parce qu'il y a un cep. Je ne vais pas aller gratter autour du pied du cep, hein, le cep. Mais je sais que c'est une vigne en tous les cas. Tous les éléments sont réunis naturellement. Il est à peine visible, hein, ce cep, hein, tout simplement. Et s'il est visible, si la vigne est visible, c'est parce qu'elle est un témoin qu'il y a une vigne ici. Comme moi, je suis témoin, comme nous sommes témoins, comme les églises qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, sont témoins de la vie de Dieu, que Dieu existe, mais pas seulement que Dieu existe, que Dieu est venu sauver les hommes, le Rédempteur, celui qui a fait l'expiation. Et c'est ça ce que le but du message qui doit être projeté sur le monde, à partir de nous. Sans le cep, le sarment périt. Mais oui, ce que vous voulez, hein, s'il n'est pas rattaché au cep, il va périr. Sans les sarments, le cep, eh bien, ne peut rien produire, ni feuilles, ni fruits. Le raisonnement donc pourrait être le suivant, raisonnement que l'on tient de Jésus, où Dieu, où Jésus pourrait nous dire, et il pourrait le dire à l'Église, et il le dit à l'Église ce matin, « J'ai besoin de vous, vous, mes enfants, vous les croyants, vous les chrétiens authentiques, pour me faire connaître au monde qui ne me connaîtra que par vous. Pas la peine de chercher des méthodes, des recettes et tout ce que vous voudrez. C'est parce que justement, nous sommes les représentants, les ambassadeurs. Vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur ? C'est un personnage important. Il représente sa patrie, il représente sa nation, eh bien, dans un contexte étranger. Et il fait tout pour finalement donner de la valeur. Il ne va pas décrier hein, le pays dont il est national. Non, il va donner ce qu'il faut. Eh bien, c'est la même chose. Et nous rendons un bon témoignage, qu'il ne soit pas un témoignage de critique ou qui fait hausser les épaules des gens quand on leur dit qu'on est des chrétiens. Surtout s'ils employaient le mot évangélique, hein, parce que là, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, il y a des problèmes. Voilà, parce que ce n'est pas la peine d'employer les mots si vous ne vivez pas ce que vous croyez. Ça, c'est peut-être à considérer. Je suis le cep, demeurez en moi, portez du fruit, marchez en lui, nous dit Paul dans Colossiens, marchez en lui, marchez avec lui, enracinez et fondez en lui dans la foi, dans l'amour, dans la joie et rayonnez de la paix. Ça, c'est important. Cette association Christ et l'Église, la tête et le corps, le cep et les sarments, le tronc et les branches, c'est un tout, on ne peut pas le diviser. Les injonctions qui nous sont données dans une Église, une petite communauté comme la nôtre, attention, il y a un grand danger, c'est de nous diviser les uns les autres. Alors là, à ce moment-là, c'est la catastrophe. Là, vous pouvez toujours y aller. Hein. Il va falloir remonter le terrain, je peux vous dire. Voilà. Remonter la pente, ça ne va pas être évident. C'est le travail du pasteur, ça. Parce qu'il est un berger. Et un pasteur, vous avez remarqué comment il fait marcher son troupeau ? Dans l'unité et dans, comment pourrait-on dire, l'homogénéité. Et il y a de la place autour du pasteur et du troupeau. Hein. Les montagnes à perte de vue et tout ça. Alors, quand il y a une brebis qui se perd, allez voir dans tous les trous, les fossés et puis les ravins. Hein. Ouais, non, non, on doit rester unis, mais pas autour d'un homme, pas autour du pasteur, mais autour de Jésus. Il y a des belles paraboles, il y a des belles paraboles hein, pour ça. Hein. Hein, le bon berger, et puis le fils prodigue qui revient dans la maison de son père. Hein. Il y en a d'autres hein, comme ça. Alors, je pense que tout ça, c'est quand même assez intéressant. Le Saint-Esprit sera en vous. Tout ce que le cep possède, appartient au sarment et tout ce qui appartient à Christ appartient aux disciples qui restent à la condition qu'ils restent attachés. Si vous coupez les liens, hein, c'est comme une perfusion ça, à l'hôpital. Pour ceux qui connaissent un peu l'endroit, je peux vous dire, vous ne sortez pas la nuit. Hein. Vous êtes ficelé sur votre lit et vous avez des... C'est pas très drôle, mais c'est nécessaire parce qu'autrement ça s'arrête. Et ben, vous risquez de passer de l'autre côté, ça dépend des substances qui sont dans le... Hein, dans l'intervention, naturellement. Surtout que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ça serait dommage d'aller voir ailleurs, parce que la parole nous dit que vous avez tout pleinement. Alors pourquoi aller chercher ailleurs, hein, de toute façon ? Le cep, c'est exploiter toutes les richesses du terroir, c'est important, pour les restituer au sarment, ce qui, par la suite, donnera au vin ses particularités uniques. Je ne saurais vous inviter ce midi à prendre chez moi un verre de Château Yquem, pour ceux qui connaissent. Parce que je pense que je ne serai pas assez riche. Mais il y a des vins, ce sont des nectars, d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient blancs, qu'ils soient rosés, qu'ils soient rouges surtout, et avec des... localisation tout à fait particulière. Un Bourgogne, c'est un Bourgogne. Un Côte-du-Rhône, c'est un Côte-du-Rhône. Et puis voilà, hein, tout simplement. Là, on est dans une région, c'est du blanc, c'est du muscadet. Voilà. Hein. Mais c'est pour dire qu'il y a... Et les œnologues savent très bien comment ça se passe. Ils savent, même les yeux bandés, ils savent reconnaître un terroir. Et même une année de production, un millésime, par exemple. Eh oui, c'est extraordinaire tout ça, hein. Et ça vient, non pas du sarment, ça vient du cep. Et il va puiser finalement dans les ressources de la terre. C'est ce qu'on appelle le bouquet. On appelle ça la couleur, on appelle ça la finesse. Et puis, il y a naturellement de la législation derrière, parce que, à consommer avec modération, l'alcool. Hein. Aujourd'hui, c'est plafonné, hein. On ne peut pas avoir... Mais il y a eu des temps où, véritablement, ça pesait, hein, certains vins. Alors, nous sommes devant une réflexion qui nous parle de quantité et qui nous parle de qualité. Qu'est-ce que nous choisissons? Nous choisissons une vie chrétienne de quantité où on fait tout et n'importe quoi, l'activisme. Ou alors, à ce moment-là, eh bien, on va faire de la qualité. On va en faire moins, plus tranquillement. Mais il va en ressortir quelque chose de formidable et d'excellent. C'est la place, c'est la position, c'est l'utilité du sarment qui dépend totalement de son porteur et non l'inverse. Faut pas se prendre pour Dieu. Faut pas se prendre dans nos églises pour être meilleur que la communauté d'à côté. Faut pas se prendre supérieur. Et ça, ça a été le mal du christianisme. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela, etc., etc. Bon, on est ce que l'on est, et puis les autres sont ce qu'ils sont, et nous devons les respecter. Moi, je suis pas d'accord avec les méthodes et avec les systèmes religieux. Par contre, je veux respecter les personnes, même si elles ne pensent pas comme moi. C'est la personne qui est plus importante qu'une théologie, qu'une théorie. Parce qu'avec les théories, on fait des divisions, on fait des guerres de religion. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, toute recherche de réalisation en dehors de notre intimité et de notre relation à Christ laissera un goût mélangé. C'est pour ça que les gens sont dans la confusion par rapport aux faits religieux aujourd'hui dans notre monde. Alors premièrement, il y a des religions qui ne sont pas chrétiennes, l'islam, bouddhisme, hindouisme, etc. Chez les chrétiens, il y a les orthodoxes, il y a les catholiques, il y a les protestants, et puis ça s'en va dans tous les sens. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Il faut les ramener à Jésus, c'est Jésus qui est le sauveur de tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset capital du message évangélique. Ouais, attention au mélange. Il y en a qui supportent mal le blanc et le rouge. Ou le rosé avec le... je ne sais pas ce que vous voulez. Quand on n'y rajoute pas quelque chose d'autre. Ah oui. Le sable, je vais bientôt terminer. Je vais vous sortir de la vigne. Le cep a de la robustesse. Les sarments cassent lorsqu'il y a des tempêtes dans les campagnes. En tous les cas, c'est pas perdu pour rien, c'est pas perdu pour toujours. Le cep va rester dans la... Et là, il faut recommencer une année, deux années, il faut retailler, il faut... Avec la maladie, la pourriture et tout ce qui va se mettre dedans. Mais néanmoins, le cep, il est toujours vivant, quelque part. Il est robuste. Il possède la vie, il détient la vie, et la vie va repartir. À moins qu'il ait été vraiment endommagé considérablement. Et nous voyons qu'il détient donc, je le disais, les richesses du sol, cette subtile alchimie de l'eau, de la lumière et du minéral. Et avec tout ça, comment ça peut se produire pour avoir des vins si bons? Pour avoir des vins de tel ou tel... C'est naturellement les cépages. Mais comment on peut avoir ça? Il y a un homme qui vivait vers... il vivait au 3e ou 4e siècle, c'est Augustin. Moi, je n'appelle pas ça saint Augustin, parce que bon, les saints, c'est ceux qui, véritablement, en effet, ont été sauvés par Jésus-Christ. Mais je ne veux pas dire que Augustin n'était pas sauvé, hein. Ça ne veut pas dire ça. Mais la religion a tout dénaturé par rapport à ça. Voilà. Il a écrit quelque chose sur le miracle de Cana. Et qu'est-ce qui se passe à Cana? C'était pas de la limonade. Hein. C'était du vin. Et du vin en quantité, parce que ça représentait vraiment des litres et des litres et des litres. Hein. Comme dans les mariages de l'Antiquité, ça durait 8 jours. Alors, évidemment, si vous faites un mariage de 8 jours... il va falloir des ressources, hein, naturellement. Et il a écrit ceci, moi j'ai toujours, et je l'ai cité combien de fois dans mes prédications, Augustin a dit ceci, « Celui qui a créé le vin dans les vases de Cana est le même vous allez voir la subtilité, est le même qui, chaque année, à la saison donc du vignoble, le crée dans le cep de vigne. Ah, ben oui, c'est curieux. Des vases et un cep de vigne. Comme l'eau, puisée par les serviteurs, vous connaissez l'histoire, fut changée en vin par la puissance divine, cette même puissance change en vin chaque année dans les cèpes l'eau qui tombe du ciel. Elle tombe du ciel, elle va tomber dans toutes les saisons, elle va être recueillie par la terre. La terre va finalement, eh bien là, faire ressortir tous les sucs de ce qu'elle contient, et ça va monter dans le cep, et le cep va le transmettre aux sarments, et les sarments vont faire des feuilles, ils vont fleurir, et ils vont produire le vin. C'est extraordinaire, parce que à Cana, en un instant, et dans le cas qui nous est présenté, ça va prendre un an, une saison, tout simplement. Et le résultat, ça sera un nectar. Et voilà, hein. Le miraculeux qui est produit à Cana, le miraculeux qui est produit chaque année, puisqu'on y arrive maintenant, ce n'est que la répétition et la fréquence du fait qui nous ôtre l'admiration, parce qu'on ne va pas finalement, eh bien là, à la saison des vendanges, de dire « mais c'est un miracle ». On ne dit pas que c'est un miracle, on dit « c'est la nature ». Eh bien, le miracle est nature, c'est Dieu qui en a la maîtrise. Ça se passe en un instant ou ça se passe en un an. Et c'est quand même l'eau, c'est quand même le cep, c'est quand même la terre, c'est quand même toute cette plante, ce végétal qui va donner, eh bien, ce vin. Et ça, c'est quelque chose. Miracle de Dieu, oui. Miracle du temps, certainement. Mais c'est un miracle quand même. Mais on n'y fait pas attention. Il avait bien vu, mon ami Augustin. Enfin, je l'appelle comme ça, parce que, avec respect. Je finis maintenant. Un cep sans sarment est improductif, et un sarment sans cep est une vulgaire branche de végétal qui finalement, eh bien, qui ne peut rien. « Sans moi, nous dit Jésus, vous le relirez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tout ce que nous pouvons faire dans notre vie d'homme, tout ce que nous pouvons réaliser, nos ambitions, nos projets, tout ça, et ça n'oubliez pas, mes amis, eh bien, de prier pour associer Dieu à votre projet, lui soumettre, et c'est lui qui va le bénir. C'est lui qui va peut-être retarder l'échéance de l'exaucement, mais il le fera. Tout ce que vous demanderez, parce que vous êtes véritablement, eh bien là, mes enfants, parce que vous avez foi, tout ce que vous demanderez, mais vous le recevrez. Ça ne vous donne pas la foi, ça? Ah, et je sais qu'il y en a qui disent, ils sautent sur leur chaise, là, ils disent, mais c'est ça, c'est vrai. Hein? Mais moi, je vous invite, vous, les amis qui venez nous rejoindre et qui entendez peut-être la première fois un message évangélique, mais c'est ça la vie, c'est ça l'évangile. Et vous savez combien on est heureux, hein? Même si quelquefois on passe par des tempêtes, avec des ouragans. Eh oui, mais néanmoins, ce n'est pas l'extérieur qui nous réjouit, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes. De même, l'Église sans Christ ne peut produire de fruits, de même Christ, sans les fidèles que nous sommes, ne peut accomplir une œuvre sur cette terre. Nous en sommes ses témoins et nous sommes ses ambassadeurs. Le monde ne goûtera aux bontés et aux délices du ciel que pour autant que les chrétiens soient des reflets, soient des lumières, soient des lueurs, qu'ils soient le sel et qu'ils soient... En effet, eh bien, tout ce que Jésus nous décrit de ce que nous sommes appelés à être pour que nous puissions remplir notre mission. Quel vin produisons-nous? Si nous produisons du vinaigre, eh bien, c'est aigre. Mais il y a meilleur que le vinaigre, hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Quel vin produisons-nous pour donner aux hommes l'envie de boire, et je ne dirais pas de s'enivrer, hein, mais de se réjouir. C'est pourquoi il est dit à un moment donné, « Je vous laisse ma paix. » Moi, je vous souhaite la paix ce matin, à travers sa parole. « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, parce que la paix du monde, elle est suivie souvent de larmes, de chagrin et de peine, parce que nous avons espéré des choses qui sont inespérables, si je peux me dire. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, nous dit la parole. » Et ce que nous avons besoin de réaliser, si vous demandez quelque chose en mon nom, donc je le ferai, et ma joie sera votre joie. Et le vin, c'est véritablement l'emblème de la joie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour ta bonté et ta fidélité. C'est vrai que c'est un thème très simple, mais une chose qui est certaine, c'est que tu veux allumer un feu dans notre cœur. Peut-être pour ceux qui viennent pour la première fois, possible. Peut-être pour ceux qui reviennent, parce qu'ils ont peut-être pris de la distance, puisque tu nous as parlé de demeurer en Christ, et tout le monde n'est pas demeuré. En effet, nous avons voulu voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et puis il y a ceux qui veulent persévérer, et qui aujourd'hui sont des hommes et des femmes remarquables, d'exception, parce qu'en effet, ils s'efforcent en tous les cas. Ils veulent obéir à Jésus, ils aiment l'amour de Jésus et ils sont aimés de Jésus. Alors, accorde ta grâce, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas, Père éternel, faire des efforts, impossible. Tu nous demandes tout simplement de te faire confiance. Toi, tu es le cep, nous sommes les sarments. Permets, Père éternel, que nous portions beaucoup de fruits à la gloire de celui qui nous a créés pour l'éternité, et qui nous a sauvés de nos fautes, de nos péchés, pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Merci Seigneur. Amen.